Il y a une raison à cela. Pour dire rationnellement, ça se comprend. Le politique étant le levier essentiel des forces de l'humanité. C'est comme ça que ça marche. Je me rappelle, dans mon enfance, j'avais lu un livre en français du nom des Misérables, d'un certain Victor Hugo, je crois, c'est ça, oui. Et j'avais très frappé de la thèse centrale du livre. Bon, c'est un très beau livre, mais il y a une thèse extrêmement pessimiste dans ce livre. C'est que le monde est cruel, le monde est violent, et le monde amène le malheur. Mais on peut, par un peu de charité chrétienne, un peu de générosité, adoucir la douleur de ce monde. C'est comme ça que j'ai analysé le livre. Je suis prêt à admettre d'autres analyses. Mais ce que ça voulait dire, de mon point de vue, c'est qu'il y avait cette idée que la société, donc le politique, n'était pas sanctifiable, mais l'individu pouvait transformer le monde, tandis que la thèse fondamentale d'Israël, celle qui a été révélée à Abraham, c'est qu'il faut d'abord passer par une identité nationale, Goy Gadol, une grande nation. Oui, très bien, mais alors dans ce cas-là, à quoi est-ce qu'on arrive? Alors, vous connaissez la suite des versets, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama »« Par toi seront bénies toutes les... » Les quoi? Les nations, c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, n'est-ce pas? « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Problème de traduction, si vous voyez le texte en hébreu, c'est « Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est-à-dire, alors que Abraham doit fonder une nation, ce qu'il est censé bénir, ce à quoi il est amené à donner une bénédiction, ce sont des familles, non pas des nations. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut revenir un peu à l'antériorité du texte. Je voudrais vous lire ici un petit verset de la Bible dans la paracha de Noach. Vous allez devoir attendre que je trouve le verset. Bon, vous savez, il y a des généalogies dans le 10e chapitre de la Bible, de la Genèse. Vous avez Elle, Beneshem, les Mishpechotam, les Shonotam, les Arzotam, les Goyehem. Traduction. Voici la liste des enfants de Shem. Il s'agit de la lignée sémitique. Les Mishpechotam, les Shonotam, selon leur famille et leur langage. Et puis après, le verset se complique. Be Arzotam, les Goyehem, dans leur pays, selon leur nation. D'abord, le texte est un peu lourd. Enfin, je reprends. Selon leur famille et leur langage, dans leur pays, selon leur nation. Ça veut dire que les groupes humains, au début, n'étaient pas des nations. Les groupements humains étaient des familles. Et puis, quelque chose s'est passé, les familles sont devenues des nations. Parce que le critère définissant les groupes a changé. Au début, les groupements humains étaient considérés comme des familles de langage. Le langage ici, le mot lachon, ne veut pas dire la langue que l'on parle, mais il veut dire la culture que l'on porte. En hébreu, vous avez deux termes pour dire un langage. Vous avez safa, qui vient du mot lèvre, c'est ce qui est extérieur, et vous avez le mot lachon, qui veut dire la langue, ce qui est intérieur. Donc quand on parle de leshonot, on parle ici des cultures. Or, il était un moment où les groupements humains étaient définis par les cultures. Et donc, les groupements étaient des familles. Les relations naturelles entre familles, ce sont des relations cordiales. On se marie entre familles, on s'aime bien, on mange ensemble le Shabbat, si on fait le repas du Shabbat. Enfin, bref, c'est la fraternité qui est supposée, qui est censée régir les relations entre familles. Et puis, à un moment, la définition des groupements humains est passée au territorial. Be'artzotam legoyehem. Lorsque ça a été défini par le territoire, ont été fondées les nations. Or, la relation naturelle entre les nations, c'est la guerre. Le prophète Isaïe dit, « Viendra un temps où une nation ne fera pas la guerre à une autre nation. » C'est une innovation. Comment? Ce sont des nations, ils ne se font pas la guerre? C'est-à-dire que dans l'idée de nation, on a eu la naissance de l'étranger. L'étranger est exclu de l'humanité. Donc, si Abraham doit régler certains problèmes, un des problèmes qu'il doit régler, c'est celui-là. Il doit aider les nations à redevenir des familles. Venivrechu becha kol mishpechot. Par toi seront bénies les familles de la terre. Mais alors là, il y a quelque chose de paradoxal. C'est clair ce que je vous dis là? Parce que là, je vais compliquer les choses. Oui, bon, c'est très bien. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que pour réussir cette entreprise, Abraham est amené à fonder une nation et pas une famille. Ve'esra l'egoï gadol. Je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, tu vas ajouter ton grain de sel au nationalisme. Alors, ça ne tient pas debout. Mais ça veut dire une chose. Ça voudrait dire peut-être, d'après le texte, que le seul nationalisme moralement légitime serait celui d'Abraham. Parce qu'il est le seul nationalisme qui n'est pas un égoïsme élargi, mais au contraire, qui a pour point de départ la réunification de l'humanité. Et donc on peut dire, il est légitime d'être nationaliste hébreu, parce que la finalité justement est universelle. Vous savez qu'il y a ici, ça se relie à une problématique que l'on trouve dans l'humanité moderne, c'est le drame de ce qu'on appelle le clivage gauche-droite. Sans rentrer dans la politique, mais je voudrais caricaturiser, si vous voulez bien. Je vais dire des choses extrêmement caricaturales et schématiques, je le sais bien, mais c'est uniquement pour aider la pensée à progresser. Je sais bien que dans la réalité, il y a des nuances à ce que je vais dire. Il y a deux options possibles. La première est d'aimer sa patrie, son peuple, sa terre. Si je pousse ça à l'extrême, ça devient le refus des autres. C'est-à-dire, j'aime mon peuple, et donc, je déteste les autres. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un paroxysme de l'amour de soi. Et l'autre possibilité, c'est, je suis cosmopolite. Je suis citoyen du monde. J'aime tous les hommes. L'extrême de ça, et je déteste ma patrie. C'est-à-dire, je ne suis pas capable d'avoir des racines, parce que j'ai le sentiment qu'avoir des racines me coupe du reste de l'humanité. Je sais bien que dans la réalité, c'est extrêmement différent. Toute personne normale, disons, sur Terre, a à la fois des attaches nationales et des attaches universelles. Mais il y a quand même une tension intérieure qui fait qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut choisir. Et c'est un conflit difficilement soluble, qui a engendré le fait des mouvements de gauche et de droite, pour pousser ça à la caricature. On pourrait dire que une manière de régler ce problème se trouve chez les Hébreux. C'est-à-dire, Abraham va être fondateur d'une nation à portée universelle dès le départ. Et donc, de ce point de vue-là, ce problème est réglé chez l'Hébreu. On pourrait dire, plus l'hébreu est fidèle à son identité nationale, plus il est universel. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons créer un modèle pour l'exportation. C'est-à-dire, ce que nous faisons, nous autres Israéliens aujourd'hui, redevenant hébreux sur notre terre, nous faisons parfois consciemment, parfois inconsciemment, ce travail-là. Aidé par la Providence, évidemment, à rétablir une société dans laquelle l'unité des valeurs serait possible, et alors, ça serait vendu comme modèle pour l'exportation, et acheté par les goyim, hein, par les nations. Et donc, si vous voulez, le projet au départ est un peu loin de ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, dans les groupes dits noachistes. Vous avez certainement entendu parler de ça, qu'il y a aujourd'hui une certaine diffusion de cet enseignement traditionnel de la halakha, qui est de la loi juive, qui est qu'il y aurait 7 commandements des fils de Noé, qui représentait d'une certaine manière la morale universelle, etc., etc. Mais, si vous voulez, ce projet, qui aujourd'hui commence à être bien vendu, pas très connu, on va en parler quand même, d'accord. Mais enfin, je vais vous dire que ce projet est un projet dérivé du projet originel. C'est-à-dire, le projet d'Israël, en fait, devrait s'adresser au gouvernement des entités politiques, aux chefs des nations. Et donc, s'il y aurait véritablement un discours à tenir, ça serait non pas entre des rabbins et des individus parmi les nations, mais ça serait entre le gouvernement israélien et des gouvernements sur le globe. Ça serait comme ça que, si vous voulez, la mission d'Abraham serait véritablement réalisée. Mais nous en sommes très loin, mais il est important de savoir que c'est ça qui nous gratte la tête par derrière un peu parfois. Et c'est une des modalités de ce qu'on appelle en grand et de manière un peu déformée le messianisme. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai toujours des hésitations à employer des termes qui ont toujours des connotations pas très claires. Que veut dire le terme de messianisme? Que veut dire humanisme, etc.? C'est pas toujours très clair, il vaut mieux parfois rentrer dans les détails.